Vous écoutez À Livre Découvert avec Clotilde Desseille et ses invités.
Et oui, c'est l'émission Un livre découvert qui se prolonge deuxième demi-heure avec des rubriques que vous connaissez peut-être moins, comme par exemple le classique de la semaine. On va commencer avec cela, avec la bénévole de la semaine, Marie-Christine Morin, qui sera avec nous. Et puis, il y aura aussi la chronique de bouche à oreille avec une page de littérature, une page de lecture. Et nous finirons avec quelques nouvelles parutions. Et puis, quelques titres en rafale que je pourrais vous donner pour que vous alliez vous ruer au SQLA pour aller les chercher.
Chapitre 3. Le classique de la semaine.
Alors, le classique de la semaine, j'ai gardé avec moi Michel Langlois, en vous rappelant que Michel, si vous avez raté la première demi-heure de cette émission, a réalisé un documentaire sur Anne Hébert, disons ça comme ça pour faire plus court, qui s'appelle Anne des 20 jours. Merci d'être resté avec nous, Michel.
Plaisir.
Je vous ai gardé parce que je me suis dit, quitte à parler d'Anne Hébert en première partie et quitte à aller vers cette rubrique qui s'appelle le classique de la semaine, pourquoi ne pas se replonger dans un des livres de Anne Hébert? Et vous avez choisi Les Chambres de bois.
Les Chambres de bois, paru en 1958. C'est en fait le premier roman d'Anne Hébert.
Ah oui.
Parce que Le Torrent est une nouvelle, donc avec d'autres nouvelles regroupées sous le titre du Torrent. Il y avait eu des poèmes. Et puis Les Chambres de bois est le premier roman, vrai roman, si on veut.
Alors, qu'est-ce qu'on... De quoi ça cause, les chambres de bois? Non, mais parce que je sais que ce n'est pas un livre facile, hein, déjà, là.
Mais je ne dirais pas que c'est un livre difficile. C'est un livre dont l'argument importe peu. C'est-à-dire que l'histoire est très simple. C'est une fille qui fait un mauvais mariage au départ avec quelqu'un qui ne l'aime pas, qui ne peut pas aimer. Le personnage de Michel est un type gâté par la vie, artiste raté, etc., qui ne sait pas aimer. Et elle qui a besoin d'amour, qui a besoin d'en donner, et comme dans l'hiver de cet amour-là, jusqu'à ce qu'elle décide, pour ne pas en mourir, de tout envoyer promener et de trouver la liberté. On peut, si on veut, si on pense à la vie d'Anne Hébert, comparer ça au Québec.
Tu vois? Ah oui?
Anne Hébert va quitter le Québec dans ces années-là. Elle va commencer à publier au Seuil. Bon. Et c'est comme le personnage de Michel serait comme, d'après moi, je ne prétends pas faire une analyse profonde, mais d'après moi, serait un peu une métaphore du Québec, de l'âme embourbée et de cette jeune femme qui va prendre son envol vers l'ailleurs. Donc, ce n'est pas une critique du Québec, c'est un...
Non, mais enfin, quand vous parlez d'âme embourbée, quand même.
Ce Québec encore figé dans la religion, dans le catholicisme, dans peu d'ouverture sur le monde, en fait. Donc, moi, je l'ai un peu lu comme ça, en le relisant, parce que je l'ai relu pour vous, Clotilde. Et j'ai été agréablement surpris parce que il y a cet art d'Anne Hébert à l'œuvre toujours, c'est-à-dire le plus grand réalisme mêlé à la plus haute poésie pour créer quelque chose de très efficace qui va toujours à l'essentiel. Elle va aussi bien parler de la suie qui tombe des cheminées d'usine, mais en même temps, elle se trouve à parler des noirceurs de l'âme et vice-versa. Elle va être capable aussi de parler... du cœur souffrant ou obscur de quelqu'un par des références très simples au paysage ou à ce qui entoure cette histoire.
Autrement dit, est-ce que vous avez eu l'impression de l'avoir redécouvert?
Oui, je l'ai redécouvert. Ouais. Je l'avais lu jeune, trop jeune, en fait. C'est un livre peut-être plus difficile que les romans qui suivront.
Mais c'est intéressant ce que vous dites. Quand en ce moment, il y a ce débat sur la littérature, on dit qu'on ne fait pas assez lire nos jeunes et surtout qu'ils ne lisent pas assez nos classiques, dont évidemment les classiques d'Anne Hébert. Est-ce que vous trouvez qu'on est peut-être trop jeune quand on demande à des étudiants du cégep de lire du Anne Hébert? Est-ce que ça mérite qu'on soit un petit peu plus adulte, un peu plus mature?
Je crois, je pense. Je pense qu'il faut avoir, pour vraiment bien aborder Anne Hébert, il faut avoir dépassé l'anecdote. Il faut avoir dépassé la quête de l'anecdote. Il faut chercher le sens profond. Il faut avoir le goût d'un regard poétique sur les choses. Quand je dis poétique, je ne veux pas dire éthéré. Je veux dire ancré dans la réalité des choses. Et je pense qu'effectivement, de lire les chambres de bois trop jeunes, ça n'apporte rien.
Non, c'est ça.
Il y a des œuvres plus abordables. Je crois que les jeunes seront peut-être plus attirés ou plus à l'aise avec Les Fous de Basson.
Bien sûr.
Ou même Kamouraska.
Même Kamouraska, oui, ouais. C'est certain. Ouais. Oui, parce que là, effectivement, de toute façon, tantôt, en plus, je vous ai posé une question tellement idiote. C'est vraiment pas le genre de livre. On peut dire, bon, alors c'est quoi l'histoire, hein? C'est pas ça non. du tout. Hein? On est vraiment dans une ambiance.
On le résume, on perd tout. Tu vois, c'est ça.
Exactement. Voilà. Mais là, par contre, ce qui serait intéressant, et c'est ce que vous allez faire, vous avez accepté de le faire, ce serait de nous lire le début du livre. Je vous rappelle que le classique du jour, on parle là de les chambres de bois de Anne Hébert, et le début du livre sera lu par Michel Langlois.
Ceci dit, je lis un court extrait.
D'accord.
Pour vous donner le ton. Hein,
juste le ton. Juste le goût d'aller se replonger là-dedans.
D'accord. C'était au pays de Catherine, une ville de hauts fourneaux flambant sur le ciel, jour et nuit, comme de noirs palais d'apocalypse. Au matin, les femmes essuyaient les vitres des maisons, les patines des feux trop vifs de la nuit. Les fenêtres de Catherine étaient claires, le carrelage de la cuisine luisait comme un bel échiquier noir et blanc. Toute transparence refaite à mesure, Catherine ne s'était jamais laissée devancer par le travail et le temps. Depuis la mort de la mère, n'y avait-il pas trois petites sœurs après elle qu'il fallait nourrir, laver, soigner, habiller et repriser, tandis que le père se retirait en sa solitude. L'année de la mort de la mère, il y eut un été si chaud et si noir que la suie se glissait par tous les pores de la peau. Les hauts fourneaux rivalisaient d'ardeur avec le feu de l'été. Sous l'abondance d'un pain aussi dur, des femmes se plaignaient doucement contre la face noire des hommes au désir avide.
Oh, quelle écriture! Quelle écriture!
Oui, parce que je trouve que en trois petits paragraphes, on a tout un monde. On a une ville ouvrière, minière, on a des enfants laissés à eux-mêmes, on a les hommes, les femmes, le désir, la saleté.
C'est incroyable! C'est vraiment incroyable.
C'est ce que j'appelle cette interpénétration. De la poésie et d'un regard très réaliste, au fond, aussi, sur, entre autres, sur la vie ouvrière. Ouais.
Je voudrais rappeler à nos auditeurs que parmi les œuvres de Anne Hébert qu'on retrouve au SQLA, vous pouvez trouver L'enfant chargé de songes, Les enfants de Saba, Les fous de Bassan, Kamouraska, œuvres poétiques. Le titre dont nous venons de parler à l'instant, Les chambres de bois, mais il y en avait d'autres aussi, le torrent qu'on avait nommé aussi. Donc, Poème pour la main gauche aussi, Le premier jardin et Un habit de lumière. Voilà, ce sont tous les titres qui sont enregistrés pour vous au SQLA. Et comme on a un petit peu de temps, Michel, on connaît le cinéaste, on connaît le scénariste, on connaît le documentariste, on connaît un petit peu moins le romancier. Il n'y a pas un roman dans l'air?
Oui, j'avais commencé un roman qui s'appelle La chute des corps.
Et pourquoi j'avais commencé? Parce qu'il
j'ai
a été...
J'ai commencé, je me suis arrêté cet été.
C'est vrai?
Oui.
Parce qu'avec la belle voix que vous avez, moi, je me suis dit, ça y est, je vais lui dire non seulement quand vous l'avez fini, on va pouvoir le lire, mais c'est vous qui allez le lire. Alors,
Je suis habitué dans mes films, il y a beaucoup de voix off et c'est moi qui
Mais oui, c'est ça. Mais là, ce que je voudrais, c'est que vous vous remettiez au travail, mon petit Michel.
Oui, je vais m'y remettre là. Et j'ai même un projet de film de fiction, en fait, si on me laisse faire, qui s'appelle Plus en moi que moi.
Où l'on retrouverait là. Ah, voilà des bonnes nouvelles. Écoutez, je suis absolument ravie, Michel Langlois, que les gens aient pu vous entendre nous parler si bien d'Anne Hébert. Encore une fois, vous savez, on aurait pu passer des heures et des heures, bien évidemment, il y a toujours. Mais merci infiniment. Et où est-ce qu'on, si on voulait voir le film maintenant, comment est-ce qu'on peut faire
Très
Anne des 20 jours?
Voir. Je pense qu'il faut essayer en ligne avec Accentrice. C'est le seul canal possible. Possible, d'après moi, de diffusion actuellement. Il n'y a pas de DVD sur le marché.
Bon. Et puis, on espère qu'un jour, peut-être, un canal de télévision...
Il est passé une fois à TV5. Mm-hmm. C'était à la fin mai.
Oui. Ce serait bien qu'il repasse. À qui faut écrire.
À Pierre Gagne.
Merci infiniment, Michel Langlois, et soyez le bienvenu quand
Merci
vous voulez à cette émission.
Reçu.
Je vous en prie, au revoir.
Chapitre 4. Le bénévole du jour.
La bénévole du jour, Marie-Christine Morat, bonjour.
Bonjour, Clotilde.
Et comment allons-nous?
Mais très bien, Clotilde.
Rapprochons-nous un petit peu de
ce micro, parce que
déjà, vous n'avez pas une grosse voix. Mais alors, si en plus, elle se tient loin derrière. Marie-Christine, bel été?
Très bel été.
Vous avez lu beaucoup?
Moyen.
À voix basse, à voix haute.
Basse, à voix basse, oui, pour changer un peu. À voix basse.
C'est vrai, vous n'êtes pas venu beaucoup, vous avez un petit peu déserté les cabines de chez Vues et Voix cet été, vous?
Un petit peu, je ne suis pas partie, disons que c'est la France qui est venue à moi, alors je suis restée là pour l'accueillir, et du coup,
Et alors là, on a fait la visite, Charlevoix, et Québec, et tout le bazar, les baleines de Tadoussac.
Et d'où d'Amorène.
Alors, de quel livre, Marie-Christine, allez-vous nous parler? Un livre que vous avez lu, bien évidemment.
Livre de Pascal Bruckner, La Maison des Anges.
Qui vient donc d'arriver, il y a, je pense, un mois ou deux seulement sur les tablettes, si j'ose dire, du SQLA.
C'est bien possible.
De quoi s'agit-il?
Alors, c'est un roman, comment on va dire ça? Un roman aussi étonnant.
Eh bien, merci beaucoup Marie-Christine, c'est tout le temps. Non, ça fait toujours beaucoup de niaiseries comme ça l'une et l'autre. C'est juste pour la mettre à son aise.
Heureusement que je le suis maintenant. La première fois, je ne l'étais pas du tout, mais maintenant c'est bon. Je suis rodée. Alors, je disais donc que c'est un roman aussi étonnant que détonnant. De par le thème abordé et puis également par le ton inhabituel choisi par Pascal Bruckner. Alors c'est d'abord un roman amusant et puis de plus en plus dur, acide même, très acide.
Autrement dit, les premières pages, on s'attend à quelque chose d'un peu léger, puis plus on avance et plus on s'aperçoit que oups.
En fait, les premières pages, on ne sait pas à quoi on s'attend, mais ça c'est assez fréquent hein, quand on est bénévole à Vues et Voix. Oui. Après, quand on rentre effectivement dans le corps du texte, là, on se dit oulala, ça va devenir très sombre cette histoire-là. Et en effet, ça l'est, puisque c'est l'histoire d'une déchéance, une descente aux enfers d'un homme qui justement souhaiterait pourtant éradiquer la déchéance humaine.
Ok.
Étonnant, non?
Oui.
Donc, de quoi s'agit-il exactement? Mais en fait, l'auteur Pascal Bruckner a choisi un héros, Antonin, qui a 29 ans, qui travaille dans l'immobilier de luxe à Paris. Donc là, ça m'interpelle forcément.
Ben oui.
Et tout semble indiquer que ce brave Antonin soit parti pour une belle et longue carrière. Seulement voilà, impondérable, toute sa vie va basculer en quelques minutes, alors qu'un duo de clochards lui fait rater une vente dans un quartier huppé de la capitale, où leur présence était d'ailleurs tout à fait incongrue, puisque l'auteur choisit d'écrire « telle une verrue sur un beau visage ».
Oui.
Donc, vraiment une présence incongrue. Oui. Et voilà, à partir de là, le ton est donné. Dès ce moment-là, les vieux démons d'Antonin refont surface. Alors d'abord, son souci de la performance, son trouble obsessionnel et compulsif de la peau, de la propreté, non pas de la pauvreté, lapsus révélateur.
Ah oui, j'ai pas osé vous le dire.
C'est ça. Ouais. En fait, ce brave Antonin, c'est un maniaque, mais vraiment, oui, c'est un toc, de la propreté.
Okay.
Et en plus, il a une personnalité quand même fragilisée par l'éducation que lui ont donné ses parents. Alors, ses parents qui étaient deux postes 68-arts, jamais sur la même longueur d'onde, toujours à se crêper le chignon, l'un communiste et l'autre féministe acharné. Bref, avec ce qui lui arrive, donc Antonin se met subitement à décider de nettoyer Paris de toute la vermine humaine.
Oh boy!
Il y a à faire, c'est sûr.
Oh boy! Oui.
Et dès lors, Pascal Bruckner nous entraîne dans les bas-fonds de la ville Lumière. Et son héros quitte sa vie bien rangée et devient un monstre virevoltant et sévissant contre les plus démunis.
Oui.
Alors, ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est que l'écriture est rapide, prenante, mais franchement, néanmoins pesante. Et c'est pour ça que je disais que ça devenait un roman dur et très acide. Parce que Pascal Bruckner use de précision lorsqu'il s'agit de décrire l'horreur de la misère, la déchéance humaine des sans-abri, des clochards, la cruauté de la mafia des Roms, etc., etc.
Les Misérables, à côté, c'est du romantisme ou...
C'est pas pareil.
Pareil. Écoutez, là, les sans-papiers, tout ça, enfin bon.
C'est quand même quelque chose aussi d'actualité. C'est quelque chose de très vrai, c'est quelque chose de contemporain.
C'est vrai
que Paris, bien sûr, c'est la plus belle ville du monde.
Mais là, on
en voit ce qu'il y a de plus laid. Bref, Pascal Bruckner fait un tableau très, très, très noir de tous les laissés-pour-compte de la société. Et vraiment, tout y est. Il y a les odeurs, il y a la maladie, il y a les pires humiliations. Donc vraiment, âme sensible quand même, là.
Ah oui, s'abstenir à ce point-là?
S'abstenir, okay. Oui. Je pense que c'est vraiment un livre qui peut déranger. Et ce, d'autant que l'auteur joue volontiers la provocation.
Okay. Hein.
Ça, il n'y a pas à en douter. Alors, premièrement, parce que son héros est absolument odieux, ça on l'aura compris, même si quand même il témoigne parfois de quelques bribes d'émotion. Mais parce qu'en plus d'être abominable, il est carrément pathétique, ce pauvre Antonin. Bah, d'abord parce qu'on ne s'improvise pas tueur, comme ça, du jour au lendemain. Mm-hmm. Et de fait, il rate parfois ses coups. Et alors là, on le voit qu'il tente de s'en sortir en sombrant encore plus profondément dans la bassesse. Mais néanmoins, il prépare longuement ses coups. Et là encore, Pascal Bruckner excelle dans la description de la perversité. Mm. C'est absolument terrible.
Ok, d'accord.
Et d'ailleurs, rien n'arrête cet auteur. On voit que son héros va jusqu'à feindre de sympathiser avec ses futures victimes pour mieux les duper. Et il ira même encore plus loin en se proposant notamment d'œuvrer à la Maison des Anges, d'où le titre du livre, qui est un établissement à vocation sociale dirigé par l'improbable Isolde de Hôtelus,
oui, d'accord.
Vous en conviendrez, qui est une émule de Mère Teresa, qui va bouleverser Antonin autant qu'elle le perturbe, le séduit et le rebute. Et là, il y a quelque chose d'intéressant quand même, c'est que Pascal Bruckner attire notre attention sur l'attitude de tout un chacun quant à la misère humaine. Mais il nous amène aussi à réfléchir sur le monde de la charité et notamment des organisations humanitaires. Alors là, on peut se dire que peut-être il a quelques comptes à régler, qui sait, parce que Pascal Bruckner a quand même été membre du conseil d'administration d'Action contre la faim.
Tiens donc, justement.
Voilà.
Auriez-vous un petit extrait, cher ami, parce que vous qui aviez peur
de ne rien avoir à dire.
Vous
oui,
nous avez
ça.
Pété deux minutes bien comme il faut, mais oui. Ça ne fait rien, il nous reste un petit peu de temps pour un petit extrait. Marie-Christine Mora va nous lire un extrait de ce livre dont elle nous parle aujourd'hui.
Ok. On ne passe pas facilement du statut d'empereur des arts ménagers à celui d'exécuteur des basses œuvres. Son obsession, toutefois, le rattrapait. Antonin voyait dans ses rêves des silhouettes hagardes, des morts vivants qui jaillissaient des trottoirs et déferlaient par vagues jusque chez lui pour venir le chercher. Il continua à s'informer, accumula les statistiques. Paris comptait 10 000 sans-abri. Leur espérance de vie ne dépassait pas 48 ans, 80 pour le reste de la population. Il en mourait chaque année 350, de froid ou d'épuisement. L'hiver les fauchait par hypothermie, l'été par déshydratation. L'alcool faisait le reste. Cette décimation ne suivait aucune logique, liquidait les innocents comme les coupables. Antonin se mit au sport de façon assidue pour se transformer en machine à tuer. Il s'inscrivit à un cours de karaté, endura les coups, les ecchymoses, les doigts retournés. Il courait parfois 2 ou 3 heures, traversant Paris du nord au sud, notant d'un coup d'œil les agglomérations de miséreux, les perdants solitaires qui crevaient dans leur coin. Il sortait de ses marathons dans une forme étonnante, sa haine décuplée.
Voilà, Marie-Christine Mora, bénévole chez Vues et Voix, qui venait nous parler et nous lire un extrait du plus récent roman de Pascal Bruckner, Bruckner, qui s'intitule « La maison des anges ». Je vous dis à bientôt, Marie-Christine, ou
Mais
est-ce que c'est beaucoup
oui,
trop de travail
dit.
Non, vous aimez ça.
Non, j'adore.
Parce qu'en plus, c'est vous qui vous êtes tapé, le mot n'est pas trop fort, le chardonneret quand même.
Oui, le mot n'est pas trop
pages.
Fort.
Hein, à voix haute, c'est pas mal. Au
Chaque
revoir, Marie-Christine.
Au revoir.
De bouche à oreille. Une page de littérature.
Ben oui, c'est taper le chardonneret. Parce
un
que
verre
9...
de chardonnay, je veux bien.
le chardonnay, c'est pour bientôt à la sortie de cette émission. Je vous rappelle que Clotilde Seille et ses invités sont toujours en studio pour vous présenter l'émission à livre découvert. Et c'est une nouvelle rubrique que j'ai lancée la semaine dernière. Ça s'appelle De bouche à oreille, la page de littérature et de lecture. Il s'agit simplement d'entendre la version originale du tout début d'un livre qui vient juste de se retrouver au SQLA. Et j'ai choisi aujourd'hui Pomme S de Éric Plamondon. Écoutez, une histoire tellement compliquée que j'irai même pas essayer. Je vais passer une heure à vous raconter tout ça, mais il faut savoir que Pomme S conclut la trilogie 1984 et le périple américain de Gabriel Rivage, entamé dans Hungry Hollywood Express, sorti en 2011, qui met en scène Johnny Weissmuller, athlète olympique et premier Tarzan du cinéma parlant. Et là, on fait tous... Oh, oh, oh. bon, d'accord. Et ensuite, il y a eu Mayonnaise en 2012, le deuxième volume, qui mêle le destin de Rivage à celui de l'écrivain culte Richard Brautigan, le dernier des beatniks. Et je vous dis aussi que ces deux livres-là sont aussi au SQLA, donc Mayonnaise et Hungry Hollywood Express. Alors, si vous voulez aller chercher la trilogie, donc ce troisième-là qui s'appelle Pomme S de Éric Plamondon, eh bien, c'est le temps de contacter le SQLA. Et je vous propose un extrait. C'est le tout début, je pense, de... Non, c'est pas tout à fait le début. Je pense que c'est le chapitre 3 dans mes souvenirs. Alors, on écoute... je vais pas le dire, mais c'est Jacques Pasquet qui lit ça. En principe, on dit pas qui lit, mais je suis sûr que c'est Jacques Pasquet. J'ai reconnu sa voix. Extrait de Pomme S de Éric Plamondon.
Arbeit macht frei. Gabriel Rivage découvre la littérature grâce au surréalisme. À 23 ans, il tombe sur le Manifeste d'André Breton. Il y fait la rencontre du comte de Lautréamont. Plongé dans les champs de Maldoror, Rivage n'a jamais ressenti un texte de manière aussi puissante, aussi physique. Le livre du comte, de son vrai nom Isidore Ducasse, est autant une aventure charnelle qu'intellectuelle. On n'en sort pas indemne. On comprend la force que peuvent avoir les mots. C'est quelque chose comme la scène du rasoir tranchant l'œil au début d'un chien andalou. C'est un combat de boxe sans gants, un match de lutte sans trucage, une bagarre de rue sans issue. Lautréamont écrit « J'ai reçu la vie comme une blessure et j'ai défendu au suicide de guérir la cicatrice. » Rivage n'en demande pas plus. C'est exactement ce qu'il lui faut. Ça est la fameuse métaphore du jeune homme. Beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie. C'est sans doute une Singer, sinon une Remington.
Voilà pour cet extrait de Pomme S de Éric Plamondon. Je sais que là, tout le monde est mort de rire parce que je sais que nous, en France, on dit Singer et ici, tout le monde dit Singer. Mais je ne sais pas, il me semble que moi, c'est allemand, cette affaire-là. Donc, je ne suis pas sûr qu'on est obligé de prononcer ça Singer. Mais en tout cas, je sais, on dit Singer et on dit les Pampers aussi pour les couches culottes des enfants, ce qui fait rire aussi beaucoup nos amis québécois qui ont l'habitude de mettre des Pampers aux fesses de leur bébé. On continue? On ouvre un nouveau chapitre.
Des nouvelles et des livres.
Oui, des nouvelles, ce qui nous permet d'associer des nouvelles, parfois gaies, parfois un petit peu plus tristes, comme ces deux décès. C'est arrivé cet été. J'avais noté cela dans mes petits papiers. L'auteur Micheline Lafrance, qui a signé pas mal de romans, de poésie, de nouvelles, mais aussi au début de sa carrière, des dramatiques radio et télé. C'était Catherine Lalonde qui nous rappelait ça dans Le Devoir. Eh bien, elle est décédée des suites du cancer. C'était le lundi 21 juillet dernier. Elle avait 70 ans. On nous rappelle ici qu'elle était née dans Rosemont en 1944, où elle a grandi. Elle avait fait ses débuts comme comédienne. Elle était de la cuvée des Pierre Curzi et autres Paul Baillargeon à l'École nationale de théâtre avant de se tourner vers l'écriture. Et je voudrais vous signaler qu'au SQLA, nous avons notamment... de Micheline Lafrance, ce livre, si vous aimez le théâtre, cette biographie qu'il ne faut absolument pas manquer, celle de Denise Pelletier. Denise Pelletier ou la folie du théâtre que Micheline Lafrance avait signé en 1979. Une autre disparition cet été, celle de la romancière et prix Nobel sud-africaine Nadine Gordimer. On disait que c'était la chroniqueuse des absurdités de l'apartheid et elle est décédée à 90 ans. Voilà une femme qui a mis sa plume toute sa vie au service de la lutte contre l'apartheid, dont elle a fait surgir l'histoire à partir de vies individuelles. Et entre autres, parmi les livres que l'on retrouve au SQLA, je vous recommande fortement « L'arme domestique ». C'est une brique, hein, vous en avez pour 12 heures d'écoute. Nous sommes en Afrique du Sud, dans une famille libérale, une famille de blancs, qui explose lorsque le fils unique est accusé du meurtre de son colocataire et petit ami, qu'il surprend dans les bras de sa nouvelle petite amie, donc. Nous sommes en Afrique du Sud. Les critiques avaient été dithyrambiques. Une toute petite citation. « Il est regrettable qu'une âme mortelle, un pistolet, ait été imprudemment considérée comme faisant partie du mobilier de cette pièce et qu'il se soit trouvé là, sur la table. »
quelques nouveautés en rafale.
Alors, quelques titres en rafale, comme c'est la coutume, la tradition. Tout d'abord, ça, c'est pas une nouveauté, mais ça vient d'être réenregistré. Aimontou est un homme de Boileau-Narcejac. Vous savez, de ce couple terrible qui ont publié sous leur double signature une vingtaine de romans, dont la plupart ont été portés à l'écran. On se souvient des Diaboliques. On se souvient de Sueur froide aussi, qui a été porté à l'écran par Hitchcock et tant d'autres. Alors, ils ont remporté en 65 le prix de l'humour noir avec « Aimontou est un homme ». L'histoire, bon, un spécialiste de la greffe qui a résolu les problèmes posés par les phénomènes de rejet. Je ne vous en dis pas plus, c'est du Boileau-Narcejac, on est vraiment dans l'univers polar, noir de ces années-là. Là, ici, j'avais un petit extrait, qu'est-ce que ça disait ? « On fête Noël en famille, c'est ce qui arrive quand t'as pas d'amis ». Non, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout un extrait de ça. Alors là, elle est complètement perdue, la fille, c'est un extrait du prochain. Oh ben que voulez-vous, nous sommes en direct, mes amis, en ce mercredi midi, mais peut-être que vous nous prenez en reprise, puisque ça va passer en reprise, cette émission-là, régulièrement. Et je viens, pendant que je vous parle, j'ai retrouvé le petit extrait en question. Il s'appelle Marek, cet homme qui est capable de nous faire des espèces de monsieur monstre. Marek est capable non seulement de transférer d'une bête à une autre, un cœur, un foie, des poumons, à plus forte raison, une patte, mais encore, vous entendrez, Garrick, une tête. En d'autres termes, il a mis au point la greffe intégrale. Il reste une minute et demie à l'émission, j'ai donc absolument le temps de vous citer d'autres livres qui viennent de sortir, mais là, si vous voyez le bazar dans mes feuilles devant moi, c'est vraiment une horreur. Je sais qu'il y a le livre de Daniel Lemire, et c'est d'ailleurs un extrait du Daniel Lemire que j'ai failli vous lire tout à l'heure. Je vais vous retrouver ça, mes amis. Non, on ne panique pas. Alors, de quoi je voulais vous parler ? Oui, c'est ça. Harcèlement textuel coupable de Daniel Lemire. Et c'est lui qui disait, entre autres, dans ce livre-là, bon, alors il y a toutes sortes de sketchs qu'on y retrouve. Il y a aussi quelques citations et style. Quand les enfants étaient jeunes, nous étions à peu près le seul couple encore ensemble parmi les parents de leurs amis. On leur avait dit, aimeriez-vous qu'on se sépare ? Vous devez faire rire de vous à l'école. Bon, c'est du Daniel Lemire. Et ça fait rire Michel Langlois. Michel Langlois, que je remercie. Merci beaucoup d'être venu à cette émission qui s'achève. Je remercie aussi Gérald Cousineau, abonné du SQLA, qui est venu nous parler en tout début de cette émission. Et je remercie Marie-Christine Mora, bénévole. Marie-Christine, merci et pour le beau travail d'enregistrement et merci d'être venu. Merci Jean-Sébastien, La Liberté, pour le beau travail à la technique. C'était Clotilde Seille qui animait et réalisait l'émission à Livre Découvert. À la semaine prochaine.